journal, Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un trajet en bus de 12 heures pour rejoindre La Rochelle à Paris. Voilà à quoi se préparent des voyageurs touchés par la grève à la SNCF qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous serons à La Rochelle en début de journal. Prévoyez seulement un TGV sur 3 sur tout l'ouest de la France. Dans ce journal également, l'exécutif se dit prêt à faire un nouveau geste en faveur de l'hôpital. Le vote du projet de loi sur la sécurité sociale aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée. Faut-il interdire le port du voile pour les accompagnantes scolaires? La question sera posée aujourd'hui par les sénateurs de droite qui déposent une proposition de loi en ce sens. Nous serons en Californie avec un nouvel incendie aux abords du musée Getty de Los Angeles. Et puis avec un tennisman français qui retrouve un nouveau souffle à Bercy après un gros craquage en plein match. C'était en Asie il y a quelques mois.
À 7h50, nous parlerons des violences conjugales avec la députée européenne La République En Marche, Chrysoula Zakharopoulou. Elle sera au micro d'Alexandra Ben Saïd.
France Inter.
C'est l'impasse totale à la SNCF et une nouvelle journée délicate en perspective, Sébastien.
La grève continue en effet au technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine qui gère la maintenance des TGV Atlantique, mouvement sans préavis commencé la semaine dernière après une tentative de la direction de retirer 12 jours de congé aux salariés. Projet retiré désormais. Aujourd'hui, c'est le paiement des jours de grève qui semble bloqué, la direction refusant de les payer, le syndicat Sudrail expliquant pour sa part qu'il n'a jamais été question d'une telle demande. Bref, le dialogue est rompu. En attendant, c'est donc une nouvelle journée éprouvante qui attend les voyageurs de l'ouest de la France. Même prévision qu'hier avec seulement un train sur trois en moyenne. Illustration à La Rochelle où l'on cherche parfois à monter sur la capitale à n'importe quel prix. Le reportage de Gérald Paris de France Bleu La Rochelle.
Comment faire pour rallier Paris avec 85% des TGV directs annulés au départ de La Rochelle? L'équation est posée. Le premier réflexe, bien sûr, c'est peut-être de se tourner vers des solutions de covoiturage ou des bus. Kevin vient de Paris et visiblement, il a déjà fait le tour de la question.
Pas de bus de disponibles, ils sont tous complets, j'en ai pas un autre, sinon les Blablacar, ils ne partent pas de La Rochelle. La seule solution que j'ai, c'est prendre ma voiture. Là, j'ai pas trop le choix parce qu'après, j'ai un autre rendez-vous demain à 9h sur Paris. Donc moi, en partant de La Rochelle, je vais mettre une annonce Blablacar pour voir si je peux aider du monde à ramener sur Paris.
Des annonces qui ne restent pas en ligne plus de 10 minutes avec une très forte demande, avec des bus complets, les prix flambent et les solutions trouvées pour allier la capitale sont parfois surprenantes. Flixbus proposait hier un billet La Rochelle-Paris via Bordeaux à 135€, un trajet de 12h50 avec une arrivée à Paris-Bercy un peu avant 4h du matin. Un périple qui ne convient pas vraiment à Anaïs qui s'est déplacée en gare de La Rochelle pour tenter de décrocher une place pour le seul train ouvert à la réservation.
La solution c'est de... on me propose un à 14h44, voilà. Il faut se présenter un petit peu avant et puis en fait on aura une rame qui est rajoutée.
Anaïs, bien informée par des agents de la SNCF mobilisés à l'entrée de la gare, pour ceux et celles qui voulaient tenter une location de voiture, Choublanc, l'un des principaux loueurs en face de la gare, n'a plus de véhicule disponible.
Gérald Paris de France Bleu La Rochelle. Dans le détail, 6 allers-retours sont prévus aujourd'hui entre Paris et Nantes, 8 entre Paris et Bordeaux, 2 entre Paris et Rennes, 1 seul pour Paris-Poitiers, 2 pour Paris-Toulouse et 1 seul pour Paris-Quimper. Rien entre Brest et Paris. Ajoutons enfin cette information de nos confrères du Parisien selon qui le mouvement pourrait s'étendre. Le syndicat Sudrail aurait en effet déposé ce qu'on appelle une DCI, une demande de concertation immédiate, l'antichambre de la grève, dans 3 autres ateliers de maintenance de la région parisienne, ceux qui entretiennent les TGV du Nord, de l'Est et du Sud, mais aussi d'Eurostar et du Thalys.
Dans l'actualité aussi, Sébastien, un autre front social, celui des urgences, et l'exécutif cherche à faire redescendre la température.
Le budget de la sécurité sociale pour 2020 sera voté aujourd'hui à l'Assemblée en première lecture, avec en l'état une légère hausse du budget de l'hôpital, insuffisante toutefois pour calmer la colère. L'Élysée et Matignon en sont conscients et ont donc prévu encore un nouveau geste pour le personnel hospitalier. Le texte voté aujourd'hui sera amélioré en deuxième lecture d'ici la fin novembre. Les précisions de Véronique Julia.
La persistance de la grève des urgences depuis le mois de mars dernier, mais aussi le ralliement des médecins, des usagers et surtout la grande manifestation des hospitaliers prévue pour le 14 novembre ont fini par convaincre jusqu'au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, Emmanuel Macron l'admet, il faut un geste d'urgence pour l'hôpital. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn le reconnaît elle-même. Il faut de meilleurs salaires pour renforcer l'attractivité des métiers qui ne trouvent plus preneurs. Améliorer aussi et tout de suite les locaux, le matériel, les conditions de travail. Tout ça, bien sûr, c'est de l'argent. Il y a encore quelques jours, on ne savait pas où le prendre. On ne sait toujours pas très bien encore où le trouver, mais il est clair maintenant que la sortie de crise passera forcément par là. Initialement, pour 2020, le budget de l'hôpital était censé augmenter de 2,1%. On pourrait finalement pousser le curseur à 2,3-2,4%, ce qui pourrait représenter quelques centaines de millions d'euros en plus pour l'hôpital. La rallonge devrait être proposée le 27 novembre prochain, date de la deuxième lecture du texte à l'Assemblée. L'effort suffira-t-il ? À titre d'exemple, la revendication d'une hausse générale des salaires à l'hôpital de 300 euros mensuels coûterait plus de 3 milliards.
Véronique Julliard, en attendant une future probable hausse du budget de l'hôpital, le collectif Interhôpitaux s'est donné rendez-vous, lui, sous les fenêtres de Bercy cet après-midi. On reste dans le médical avec le rapport de Myriam El Khomri qui sera rendu aujourd'hui sur le grand âge. 5 millions de Français auront plus de 85 ans en 2050. 59 mesures pour faire face à ce nouveau défi, notamment le doublement du nombre de personnels en EHPAD et une légère revalorisation des salaires. On y reviendra dans le journal de 8 heures. L'attaque d'hier à la mosquée de Bayonne, les deux victimes sont encore hospitalisées ce matin. Deux hommes âgés de 74 et 78 ans, gravement blessés par balle, en réanimation hier soir, et pour l'un des deux, le pronostic vital est réservé. Le tireur, âgé de 84 ans, est un ancien candidat du Front National en 2015, mis en garde à vue pour tentative d'assassinat. Il a reconnu les faits. C'est dans ce contexte de tension que doit être examinée aujourd'hui au Sénat une proposition de loi de la droite qui demande à interdire le port de signes religieux aux parents accompagnant les sorties scolaires. Une proposition qui n'a aucune chance d'aboutir, Cyril Graziani.
Parfois le calendrier fait bien ou mal les choses. Pour la droite sénatoriale, cette proposition tombe à pic alors qu'elle avait été déposée au mois de juillet, bien avant le débat polémique de ces dernières semaines. Son auteur, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignaud, avait déjà fait passer un amendement similaire dans le projet de loi pour une école de la confiance. Jean-Michel Blanquer s'y était opposé, car pour elle, il y a un vide juridique.
Ce sont des accompagnateurs qui aident les enseignants à assurer un projet pédagogique hors des murs. C'est important de le dire, ils sont des intervenants dans le cadre d'un temps scolaire. Et le temps scolaire, il y a des textes très précis qui précisent que, évidemment, les enseignants ont une obligation de neutralité. Bon, ils sont fonctionnaires. Il n'y a aucune raison pour que les accompagnants ne soient pas associés à ce temps de l'école.
Faire de ces accompagnateurs, selon la sénatrice, des collaborateurs occasionnels du service public. Un argument balayé au sommet de l'État. Un tel collaborateur explique qu'un ministre de haut rang sera tenu par l'ensemble des obligations de l'agent public. Mais dans ce cas, poursuit-il, si j'étais collaborateur occasionnel, je demanderais à être payé. Cette proposition devrait être adoptée au Sénat par les LR qui sont majoritaires, mais elle n'a aucune chance de l'être ensuite à l'Assemblée, considère un député. Surtout depuis qu'Emmanuel Macron, la semaine passée, a clairement clos le débat.
Cyril Graziani du service politique de France Inter.
On part maintenant pour la Californie. Après les vignobles, ce sont maintenant les millionnaires qui sont désormais menacés par les flammes.
Un nouvel incendie a éclaté hier dans les quartiers chics de Los Angeles, contraignant des milliers de personnes à évacuer la zone, dont quelques stars comme le basketteur LeBron James et l'acteur Arnold Schwarzenegger. Le feu qui par ailleurs menace un fleuron des musées américains, le célèbre musée Getty de Los Angeles et ses œuvres classiques. 200 hectares ravagés par celui qu'on appelle maintenant le Getty Fire. Sur place, Loïc Piala.
La route de Tiger Trail serpente entre deux des nombreux canyons de Los Angeles. De là-haut, la vue est superbe. Mais depuis hier, des flancs de collines noircis par le feu et la forte odeur de fumée gâchent le paysage. C'est là que le Getty Fire a fait le plus de dégâts, détruisant plusieurs maisons. David Ortiz, pompier de Los Angeles.
La topographie ici crée une situation qui transforme ces ravins en cheminées. Alors quand le feu remonte le canyon, ça devient dangereux de se trouver tout en haut.
En bas de la route, le quartier cossu de Brentwood et ses demeures à plusieurs millions de dollars sont déserts. On entend juste l'incessant survol des hélicoptères luttant contre les flammes. Après des années à LA, Alexa a pris l'habitude de ces évacuations.
On est mieux préparé. On sait quoi emmener et ce dont on n'aura pas besoin. Quand on a sonné à ma porte ce matin, c'était très clair. On prend ce qu'il faut et on part.
La qualité de l'air laisse à désirer, mais Marc n'allait pas sacrifier sa balade à vélo sur les hauteurs de Mulholland Drive.
J'ai vécu en Floride pendant plusieurs années. Là-bas, ce sont les ouragans, c'est comme ça. C'est un risque qu'on accepte.
L'incendie n'est contenu qu'à 5% et les 1100 pompiers sur le terrain redoutent désormais le retour du vent. À Los Angeles, Loïc Biala pour France Inter.
En bref, encore à l'étranger, comme pour Oussama Ben Laden, le corps d'Abou Bakr el-Baghdadi a été immergé en mer hier par l'armée américaine afin d'éviter qu'une sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage. On a appris aussi que des extraits des vidéos tournées pendant l'assaut des Delta Force pourraient être diffusés. Et enfin, ce serait un agent secret des forces kurdes qui aurait dérobé un sous-vêtement de l'ex-calife de l'État islamique pour effectuer des tests ADN et confirmer son identité.
Et on termine avec une belle renaissance sportive, celle d'un tennisman français victime d'un gros coup de pompe.
Benoît Paire, 23e joueur mondial, il s'est qualifié hier pour le deuxième tour du Master de Paris-Bercy. Sur le papier, une performance logique, mais pour Benoît Paire, c'était presque inespéré. L'Avignonnais sort en effet d'une parenthèse catastrophique, une tournée en Asie qui lui a fait, comme on dit, péter les plombs à Maya Cazenave.
Début octobre, Benoît Paire est à Shanghai, au bout du rouleau, en plein match, il craque.
J'ai envie de rentrer chez moi ! Libérez-moi ! J'en peux plus d'être ici !
Ce cri du cœur révèle en réalité une fatigue profonde. Après un début de saison canon, sans doute son meilleur depuis qu'il est sur le circuit, 2 titres à Marrakech et à Lyon et 1/8 de finale à Roland-Garros, il s'effondre littéralement en Asie. 3 semaines de tournée qui l'usent, l'épuise, malade, en proie à des insomnies, il doit prendre des cachets, rentre en France avec le moral dans les chaussettes. Cette victoire, hier, c'est une vraie bouffée d'oxygène après un mois d'octobre très délicat.
Je pouvais pas jouer, je voyais pas la balle, j'étais vraiment dans le coltard. C'est pas du cinéma, c'est juste que essayer d'aller jouer un match de tennis quand on n'arrive pas à dormir, physiquement c'était impossible. Donc voilà, la tournée asiatique l'année prochaine, je pense que je la zapperai parce que pour moi c'est trop difficile.
Reposé, revigoré, Benoît Paire veut désormais terminer sa saison comme il l'avait commencé, en signant un bon résultat à Bercy et surtout en prouvant qu'il a le niveau pour jouer en équipe de France de Coupe Davis, qu'il n'est pas juste une doublure en l'absence de Lucas Pouille blessé.
Et avant cela, le deuxième tour au tableau de Bercy nous réserve une affiche 100% française. Benoît Paire affrontera demain Gaël Monfils. On espère qu'il verra les petites balles jaunes cette fois-ci.
Merci Sébastien, le génie.